Je vais maintenant vous présenter donc Madame Joëlle Proust. Madame Proust est née en 1947, elle est philosophe, elle est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut Jean Nicot. Concernant son parcours, elle a été professeure de philosophie au lycée Montgrand à Marseille, ainsi qu'au lycée Saint-Exupéry de Marseille. Elle a été assistante de psychologie à l'Université d'Alger. En 1984, elle a enseigné au département de philosophie de l'Université du Minnesota à Minneapolis. Elle a participé, donc elle a donné des cours dans le cadre du master multimédia hypermédia à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Elle a enseigné dans le cadre du DEA de sciences cognitives de l'EHESS, Paris 7. Et elle a enseigné aussi dans le cadre du DEA de philosophie de l'Université de Créteil. Elle a été invitée à donner des conférences ou des cours par de nombreuses universités françaises et étrangères. Par rapport à ses spécialités, ses travaux portent sur la subjectivité et l'identité, les questions de l'intentionnalité et de l'action. Elle est spécialiste de la théorie de la cognition et notamment de l'approche cognitiviste des troubles mentaux. Concernant ses publications, elle a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Elle est également l'auteur de deux ouvrages, ainsi qu'elle a participé à divers ouvrages collectifs. Concernant ses ouvrages, le premier ouvrage donc, a été publié chez Fayard en 1987, et le titre est « Questions de forme, logique et proposition analytique de Kant à Carnap ». Le deuxième ouvrage, intitulé « Comment l'esprit vient aux bêtes, essai sur la représentation », a été publié chez Gallimard en 1997. Concernant ses distinctions, elle a reçu la médaille de bronze décernée par le CNRS en 87 pour l'ouvrage « Questions de forme, logique et proposition analytique » de Kant à Carnap. Madame Proust, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Je vous remercie de cette présentation avantageuse. Et je vais maintenant tenter de vous présenter en 50 minutes un sujet qui a mis des siècles avant d'être défini dans la façon actuelle. C'est le thème de l'identité. Mais d'abord, deux mots, l'identité personnelle. Deux mots sur le propre de la philosophie et la manière d'aborder les problèmes par un philosophe, qui n'est pas évidemment la manière dont un psychologue ou un neuroscientiste interviendrait sur cette question. Le propre de la philosophie, comme vous le savez, n'est pas de produire des connaissances factuelles, mais de proposer des concepts qui soient compatibles avec les connaissances scientifiques d'une époque et qui répondent à des préoccupations générales, par exemple à des préoccupations sociales, à des préoccupations politiques, des préoccupations juridiques. Et la question de l'identité personnelle fait partie des questions qui en fait, concernent tout un chacun, parce que la notion de personne détermine effectivement aussi ce qu'il en est de la responsabilité individuelle. Alors, nous allons commencer par essayer de définir le problème que nous nous posons. Je suis partie de cette célèbre injonction socratique « Que veut dire que connais-toi toi-même » et je me demande qu'est-ce que veut dire cette injonction socratique. Pour Socrate, cela veut dire « sache reconnaître ce que tu sais implicitement, ce que tu sais sans savoir que tu le sais ». Mais la question qui me paraît intéressante, outre évidemment la question socratique qui mérite d'être développée, l'a été de toute façon, de façon justifiée, la question que je me pose c'est « que veut dire au juste toi-même ». Donc cette question « connais-toi toi-même » va pour nous prendre le sens suivant. À quoi font référence des expressions comme « toi-même » ou comme « je » quand j'utilise le mot « je » dans une phrase, qu'est-ce qu'au juste je veux dire par là? Alors évidemment, ça doit vous paraître une drôle de question, parce que l'emploi du mot « je » paraît justement être de ces emplois du langage qui sont absolument incontestables, c'est-à-dire qu'il semble qu'on ne puisse jamais se tromper lorsqu'on dit une phrase qui commence par « je », je pense que, je crois que, j'ai mal, je suis émue, toutes ces questions paraissent être, alors là je vais utiliser une expression un peu pédante, immunisées contre l'erreur d'identification. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on veut dire que dans chacun des usages du mot « je », qu'il s'agisse d'usages sociaux, d'attribution physique ou d'usage privé, je vais revenir sur ces différences, eh bien, on ne peut jamais se tromper sur qui ai-je. Alors, les usages sociaux, c'est des usages que vous utilisez dans la conversation avec d'autres. Vous dites, par exemple, je vous promets de venir, je serai là. La notion de je paraît parfaitement claire et explicite pour tout le monde. Quand il s'agit également de décrire dans une phrase en je des attributs physiques, par exemple dire j'ai les jambes coupées, j'ai le bras tendu, j'ai la tête en feu, toutes ces attributions physiques également semblent se référer sans aucun problème à ce je qui s'annonce ici. Et enfin, dans les usages privés, quand on se parle à soi-même, quand on se dit « je me demande si je vais y aller », là, vous savez aussi également à qui, à quoi fait référence le jeu. Du moins, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui ne fait aucunement problème. Alors, est-il vrai que je ne puisse jamais me tromper lorsque je fais référence à moi-même ? Pour, évidemment, trouver des cas où l'on se trompe, il faut chercher un peu loin. Et il faut chercher en particulier des cas considérés comme pathologiques d'utilisation erronée du mot « je ». Et je vais vous citer trois groupes de cas qui sont des cas étranges d'usage du mot « je ». Dans le premier, c'est un exemple que je dois au docteur Grivois ici présent, le psychotique vous dit à son médecin « je suis vous ». Et même, il dit un jour, en présence d'un autre patient, je suis vous et vous. Donc, visiblement, là, il y a une façon d'utiliser le mot « je » qui n'est pas la manière courante, qui détonne, et qu'il faut tenter d'expliquer. Deuxième groupe de cas, c'est un syndrome dont le docteur Grivois me dit qu'il a pratiquement disparu, mais néanmoins qui est présent quand même dans les ouvrages de neuropsychologie. Dans ce type de cas, le patient dit encore quelque chose de plus étonnant. Il dit « je suis mort ». Dans ce type de cas, qu'on appelle donc le syndrome de Cotard, d'après le nom de la personne qui l'a observé, le patient est très déprimé et il a l'impression que son corps a changé, que son intérieur a pourri, qu'il n'a plus de besoins naturels et qu'en quelque sorte, la meilleure façon de décrire son état, c'est de dire qu'il est mort. Là aussi, c'est une façon d'utiliser le mot « je » qui est très bizarre, puisque, apparemment, il est absolument contradictoire de dire que « je suis mort ». Si on est là, si on dit le mot « je », apparemment, c'est que l'on vit. Donc, il y a là encore quelque chose qui mérite d'être interrogé. Comment peut-on utiliser ce pronom personnel « je » d'une façon qui est aussi évanescente. Et le dernier cas, c'est le cas réciproque du précédent, où je n'ai pas un « je », j'en ai plusieurs. C'est ce qu'on appelle les troubles dissociatifs de la personnalité, plus communément appelés « personnalité multiple ». Dans ces troubles dissociatifs, il faut dire tout de suite une chose, c'est que ces troubles sont observés actuellement surtout en Amérique du Nord, qu'en Europe, les cas sont pratiquement inexistants. Mais la question de l'origine de ce syndrome n'est pas ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est la conviction qu'ont les gens qui disent « je » d'être plusieurs. Alors, c'est plusieurs « je » qui s'expriment à travers une seule bouche, à travers un seul corps, peuvent être des gens, entre guillemets, d'identité très différentes, c'est-à-dire certains se signalent comme étant hommes, d'autres comme femmes, certains se signalent comme étant enfants, d'autres comme adultes, d'autres comme personnes âgées, et vous avez cette foule, ça peut aller jusqu'à la centaine de gens, qui tour à tour s'expriment, prennent la parole, raisonnent, agissent dans le même corps. Alors, je ne veux pour l'instant défendre aucune théorie, pas même défendre l'existence réelle de ce syndrome, qui peut-être n'est qu'un effet des pratiques hypnotiques au cours desquelles les patients sont amenés à se révéler à eux-mêmes, l'existence de ces multiples, qu'on appelle aussi des altères. Je ne prendrai donc pas position sur l'étiologie, mais je trouve que sur le plan de la phénoménologie, c'est tout de même un usage étrange qu'il s'agit de comprendre. Alors avant de poursuivre, je voudrais qu'on distingue bien deux questions qui sont très différentes. La première, c'est quelle propriété attribuer à ma personne ? Quand je me pose la question de savoir qui je suis, généralement, on se pose la question de savoir si on est quelqu'un de respectable, si on est quelqu'un d'intelligent, de sensible, si on a différentes propriétés du style, est-ce qu'on est bon en mathématiques, est-ce qu'on a une inclination vers l'art, etc. Voilà le genre de questions qu'on se pose. Mais la question que je pose aujourd'hui est différente. C'est de quoi parle-t-on au juste quand on dit « je » ou quand on dit « soi-même » ? À quoi pense-t-on quand on pense « je » ou quand on pense à soi-même ? Alors, je vais parcourir un certain nombre d'hypothèses et examiner ce que l'on peut, les arguments pour et contre en faveur de chacune d'entre elles. La première pose que, finalement, c'est peut-être l'hypothèse qui vous vient à l'esprit spontanément, eh bien, quand je vois quelqu'un qui a un corps humain, quand je vois quelqu'un qui agit, et surtout qui interagit avec d'autres, eh bien, je suis tentée de dire « voilà une personne ». Alors, il y a, contre cette théorie, qui est une théorie de sens commun, et qui nous sert au quotidien, et de façon d'ailleurs fiable, il y a tout de même une objection conceptuelle qui est due à John Locke, qui est dite l'objection du prince et du savetier. Il imagine le jour de la résurrection. Notez bien que, pour suivre cette expérience de pensée, vous n'avez pas besoin de penser que l'âme est éternelle, il suffit simplement d'accepter l'hypothèse que l'on pose dans cette expérience de pensée. À savoir que l'âme du savetier est réincarnée dans le corps du prince et que l'âme du prince est réincarnée dans le corps du savetier. Donc ils ont en quelque sorte échangé leur corps le jour de la résurrection, supposons qu'il s'agisse d'une erreur. Et John Locke se demande, mais qui est la personne du savetier le jour de la résurrection ? Est-ce que c'est ce qui correspond à la vie intérieure qui a le corps du savetier, ou est-ce que c'est ce qui correspond à la vie intérieure qui a le corps du prince ? Eh bien, évidemment, la personne du savetier dépend uniquement du sentiment intérieur et non pas de l'apparence extérieure. Donc le corps humain peut être une façon trompeuse de faire référence à la personne. Il y a là l'indice d'un problème conceptuel. Ce qui nous intéresse, encore une fois, ce n'est pas la vérité de la situation imaginée, c'est simplement que conceptuellement, il y a une distinction à faire. Alors, deuxième hypothèse, bon, ce n'est pas le corps, mais est-ce que, quand même, ce ne serait pas une partie du corps particulièrement significative, à savoir le cerveau ? Alors, l'objection, bien entendu, c'est que ce qui compte dans l'identité personnelle, ce n'est pas tant, apparemment, le cerveau comme objet, qu'il ait ses propriétés physiques et chimiques là, mais c'est qu'il il soit porteur d'une information particulière. Et donc, si nous avons la possibilité de dupliquer l'information qui est portée dans un cerveau, chose qui paraît impossible pour le moment, mais acceptons à nouveau l'expérience de pensée. Acceptons qu'un cerveau nouveau, cloné, soit pourvu des mêmes pensées que le premier cerveau, et supposons que nous détruisions le cerveau du départ. Il ne reste que le cerveau cloné avec les pensées du premier cerveau. Eh bien, nous dirons, si la personne continue à agir avec son nouveau cerveau comme par le passé, qu'il s'agit effectivement de la même personne. Donc le cerveau n'est pas impliqué dans la définition conceptuelle de ce que c'est que la personne, mais plutôt ce qui est pensé par ce cerveau. Et nous avons maintenant une deuxième objection, qui est que l'on parle de cerveau ou de corps, nous sommes encore dans un référent qui est l'espèce humaine. Or, notre définition de la personne ne doit pas exclure a priori, pour des raisons purement spécistes, c'est-à-dire l'équivalent du racisme, mais au niveau des espèces, nous ne pouvons pas exclure a priori que des êtres biologiquement différents ou que des êtres même non biologiques puissent être des personnes. Nous pouvons conclure, à l'issue d'un raisonnement, que finalement nous considérons que tel ou tel être biologiquement différent est ou n'est pas une personne, mais nous ne pouvons pas le présupposer immédiatement dans notre définition. Quant aux êtres non biologiques, les robots, s'ils avaient un jour toutes les facultés d'un être pensant et agissant, et s'ils avaient différentes propriétés qui correspondent à ce que nous appelons la responsabilité humaine, eh bien, nous serions sans doute obligés de considérer qu'ils ont également quelque chose comme une personne. Donc tout ceci nous amène à rejeter l'hypothèse 2. Si on adopte l'hypothèse 2, c'est simplement pour des raisons simplement d'aveuglement provincial. Nous ne connaissons que l'espèce humaine qui est les propriétés que nous avons, et nous avons tendance à en déduire qu'il suffit d'être un homme pour être une personne, mais vous voyez que conceptuellement, c'est tout à fait insuffisant. Alors j'en arrive à une troisième hypothèse. Est-ce qu'être une personne supposerait que l'on fasse une expérience particulière, l'expérience de ce que l'on est? Est-ce que donc cette observation de traits personnels serait ce qui constitue le fait d'être une personne? Alors, trois types de données, de types d'expérience pourraient ici être cités. D'abord, la perception. Dans la perception, même dans la perception visuelle ou auditive, l'expérience comporte un aspect réflexif, c'est-à-dire qu'au moment où on a l'expérience visuelle, on se dit qu'on l'a. De même, lorsqu'on a une expérience auditive, d'une certaine façon, on est affecté par le son et on se dit en même temps qu'on entend. C'est encore plus vrai pour la proprioception. La proprioception, c'est le sens interne, le sens du corps, le sens de ce qui se passe au niveau des organes. Et là encore, il semble que c'est à ce niveau que se dessinent les contours même de notre corps vécu, du corps senti. Et donc on peut être tenté de dire, bah oui, c'est dans la perception que se définit, que se déterminent les constituants même de ce que c'est qu'être une personne. Un deuxième type de dimension, évidemment, d'expérience, et qui est encore plus importante que la perception, c'est l'action. Parce que dans l'action, vous ressentez vos propres forces en tant qu'agent, et donc il semble qu'il soit impossible d'agir sans sentir cette autonomie, cet individu qui est en vous et qui est votre personne. Et enfin, dans les émotions, vous savez qu'il y a un certain type d'émotions, puisque vous avez entendu récemment une conférence sur ce sujet, il y a un certain type d'émotions, en particulier la honte, la fierté, qui portent précisément sur la personne, c'est-à-dire qui semblent faites pour rendre le sujet conscient du fait qu'il est dans une certaine relation avec d'autres et qui peuvent l'exposer à être admiré ou au contraire à être rejeté par son groupe. Donc toutes ces émotions semblent contribuer à définir la conscience de ce que c'est que d'être soi-même. Alors, il y a deux arguments en faveur de ce type d'hypothèse, pour résumer. Un argument philosophique, c'est qu'on se connaît soi-même par introspection. Et puis, il y a également un argument expérimental, qui est que les troubles du jeu paraissent eux-mêmes être d'ordre perceptif. Par exemple, le syndrome de Cotard, dont nous avons parlé tout à l'heure, l'impression d'être mort, pourrait être lié avec une perturbation du vécu émotionnel. Le sujet n'aurait plus accès à ses émotions, il n'aurait plus d'informations émotionnelles, si vous voulez, qui lui seraient accessibles, et donc il aurait l'impression que tout s'éteint, que tout n'a plus aucune saveur et que tout est mort, y compris lui-même. Dans la schizophrénie ou dans la psychose hallucinatoire, nous avons également des hypothèses perceptives selon lesquelles ce qui fait que le sujet confond sa personne avec celle de quelqu'un d'autre, c'est qu'il a un problème particulier avec le traitement de l'action, avec l'accès qu'il a à ses propres intentions d'agir et au rapport entre ses intentions et aux actions qui en découlent. C'est d'ailleurs un trouble avéré. Ce que je viens de dire là, c'est effectivement, ça correspond à un travail qui a été fait, en particulier dans l'équipe de M. Jeannereau à Lyon, qui a montré qu'il y avait un trouble de ce genre chez les patients délirants. Maintenant, nous allons voir que, philosophiquement, nous ne sommes quand même pas tout à fait sûrs d'être arrivés. En effet, il y a des objections contre ces deux types d'arguments, l'argument philosophique et l'argument scientifique, à l'hypothèse 3, c'est-à-dire selon laquelle on sait qu'on est une personne simplement parce qu'on le voit, parce qu'on en fait l'expérience. Le premier argument, c'est que la conscience perceptive permet certes de former une pensée sur soi, mais c'est une pensée implicite. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la réflexivité qui est à l'œuvre dans la perception, qu'il s'agisse de la perception visuelle, auditive, la proprioception, qu'il s'agisse de l'émotion, qu'il s'agisse de l'action, eh bien, ça n'est pas une pensée qui porte sur l'intégralité de sa personne, c'est une pensée qui est extrêmement discrète et ténue et qui est un signal qui permet finalement de savoir ce qui dépend des mouvements qu'on a faits ou ce qui n'en dépend pas, ou ce qui dépend de lorsqu'on perçoit du mouvement de sa tête, etc. Mais ça ne nous donne pas la pleine réflexivité dont nous avons besoin pour l'identité personnelle, qui est de se considérer, selon l'expression de Locke, soi-même comme soi-même. Alors, pour en être convaincu, ça a simplement pensé à un animal non humain. Vous n'avez pas envie de dire que, par exemple, un chat ou un chien est une personne, même si je n'ai pas encore démontré pourquoi, mais appuyons-nous sur cet exemple. Eh bien, ces animaux-là ont tout à fait, eux aussi, la capacité de savoir que quelque chose... Ce qu'ils perçoivent en eux, eh bien, il y a une différence à faire entre ce qui est dû à leur mouvement et ce qui est dû au mouvement extérieur. Ils ont aussi cette capacité de faire cette distinction. Quand ils agissent, également, ils peuvent distinguer les mouvements qu'ils ont faits de ceux qui sont faits par le milieu extérieur. Donc, il y a là quelque chose d'implicite en commun avec les autres animaux, et nous ne pouvons pas en déduire immédiatement la réflexivité très forte qu'implique l'identité de la personne à travers le temps, à travers toute une vie. D'autre part, et là c'est un énorme pavé dans la mare, je n'hésite pas à dire que l'introspection est un mythe. Dire cela rejoint une tradition, puisque David Hume a été le premier à le dire avec force. Quand j'entre le plus intimement en ce que j'appelle moi-même, je tombe toujours sur une perception particulière ou sur une autre. Sur la chaleur ou le froid, la lumière ou l'ombre, l'amour ou la haine, la douleur ou le plaisir. Je ne peux m'apercevoir moi-même sans une perception, mais surtout, je ne peux jamais rien observer sinon la perception. Donc vous voyez bien ce qu'il veut dire. Nous ne pouvons pas nous voir, ce que nous voyons à tout instant, c'est des gens, c'est des pages écrites, nous entendons des sons, mais nous ne nous voyons jamais, nous ne nous introspectons en réalité jamais. Donc l'introspection est un mythe. Deuxième argument. Il y a un problème dans l'idée qu'une observation isolée puisse permettre de capter quelque chose qui est essentiellement temporel et dans la durée. Puisque la personne est quelque chose qui dure, puisque ça se détermine dans le cours d'une vie, et ça je pense que tout le monde est d'accord, que ça fait partie du concept de personne, eh bien on ne peut pas espérer capter quelque chose d'aussi dynamiquement prolongé dans une seule observation. Donc nous ne sommes pas étonnés du fait que l'introspection ne puisse pas, en un coup, si vous voulez, donner accès à la personne que nous sommes. Il faut évidemment que la mémoire intervienne et intervienne nécessairement pour capter ce que c'est que quelque chose qui est étendu dans la durée. Donc la mémoire jouera un rôle dans la constitution de la personne. Quant à l'argument expérimental, même si les expérimentations dont j'ai parlé sont parfaitement valides, eh bien, la perception du monde et des actions peut jouer un rôle seulement partiel dans le sentiment d'être soi. Je veux dire par là que même si un patient a une perturbation constatée dans le sentiment d'être soi et dans le sentiment de l'action, ça ne veut pas dire que le sentiment d'être soi se résume à ce sentiment d'action. Il suffit qu'il y ait plusieurs causes qui soient présentes dans le sentiment d'être soi pour que la perception ne soit qu'un des constituants du problème de la reconnaissance de soi. Donc, je pense que l'argument expérimental ne nous donne pas, finalement, une raison de conclure en faveur de cette troisième hypothèse. Donc, si je fais un bilan, nous avons vu que nous ne savons pas qui nous sommes, simplement du fait que nous le voyons en nous-mêmes. Parce que l'expérience ne suffit pas à constituer l'identité personnelle, la mémoire en est un constituant nécessaire. Alors, quel est ce rôle de la mémoire ? Là-dessus, c'est John Locke, encore lui, nous allons voir que John Locke nous a beaucoup servi, parce que c'est vraiment le premier à avoir élaboré ce problème de façon très détaillée. Locke écrit ceci. « Tant qu'un être intelligent peut répéter en soi-même l'idée d'une action passée avec la même conscience qu'il en avait eue premièrement et avec la même qu'il a d'une action présente, jusque-là, il est le même soi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai fait un petit schéma, ici. Vous voyez différents chiffres, 8, 10, 15, 20, ce sont des années. Hein. Prenons le sujet ici, qui a 20 ans. Ce sujet se souvient de ce qu'il était à 10 ans. À 15 ans, il se souvient de ce qu'il était à 8. Même si à 20 ans, il ne se souvient plus de ce qu'il était à 8, vous voyez qu'il y a un recouvrement des épisodes mémoriels qui permet de dire que de 8 ans à 20 ans, finalement, il y a eu une continuité mémorielle, même si ce n'est pas une continuité qui est tout entière résumée dans l'esprit de celui qui a 20 ans. On voit que successivement, il s'est rappelé à chaque fois d'étapes antérieures, en sorte qu'il y a une continuité qui résulte de cela. Donc ça, c'est la théorie mémorielle que j'appelle la théorie mémorielle simple, et qui considère qu'il y a donc continuité psychologique entre différents états, continuité donc mémorielle, qui permet au sujet d'avoir conscience à un moment donné de ce qu'il est maintenant et du fait qu'il se souvient de ce qu'il a fait avant. Alors avant de poursuivre, je voudrais, et ça va être le moment le plus difficile de cette conférence, donc j'espère que je vais être claire, je voudrais distinguer deux façons d'avoir cette co-conscience de soi, c'est-à-dire de se rappeler un souvenir. Prenons le souvenir très banal suivant, je me rappelle que j'ai visité le château de Versailles. Il y a deux manières ici de comprendre l'identité entre les deux « je ». Alors ces deux manières paraissent, en fait sont éclipsées, on n'en voit qu'une, celle qui paraît aller de soi. Ce qui semble aller de soi, c'est que, effectivement, je reconnais qu'il s'agit du même « je » dans « je me rappelle » et « j'ai visité le château de Versailles ». Mais vous pouvez tout de suite vous rendre compte, en prenant un autre exemple, que ça ne va pas de soi du tout. Prenez cet autre exemple de phrase où il y a le même pronom personnel « il », cette fois, un pronom personnel encore, mais « il », la troisième personne, et nous le faisons précéder cette phrase d'une petite phrase qui nous donne le contexte. Jean pense à son père. Il se souvient du jour où il est mort. Là, vous voyez sans aucun problème que le « il » ne fait pas référence à la même personne, et vous comprenez très bien cette phrase pourtant. Maintenant, revenons au jeu. Supposons que vous avez un ordinateur qui vous dit « j'ai besoin d'aide ». Moi, le mien fait ça pour le courrier électronique. Et il me dit aussi « j'ai trouvé trois réponses à votre requête ». Est-ce que vous allez dire que votre ordinateur reconnaît, entre ces deux usages du mot « je », qu'il s'agit de la même personne ? Non, vous allez me dire « pas du tout, c'est une pancarte ce mot « je ». En fait, l'ordinateur n'a aucun sens de lui-même. Alors, qu'est-ce qui nous prouve que nous ne sommes pas dans le cas de l'ordinateur ou dans le cas du jeune homme qui, dans la narration précédente ? Eh bien, nous avons besoin, pour établir la continuité du souvenir, de dire que les deux « je » doivent être reconnus comme identiques. Et j'ai mis une petite étoile à côté du mot « je » parce que c'est l'usage en sémantique depuis le philosophe Hector Neri Castañeda, qui a instauré cet usage, les deux jeux, lorsqu'ils sont reconnus comme identiques, eh bien, sont nommés jeux étoiles. Et c'est ce critère de jeu étoile dont nous avons besoin pour établir la continuité du jeu au cours du temps. Il ne suffit pas que le sujet dise jeu, il faut encore qu'il se reconnaisse comme le même au fil des usages du mot jeu. Alors, nous allons voir que c'est précisément là où le bât blesse pour la théorie de Locke dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le premier à l'avoir vu, eh bien, c'est Leibniz en personne, qui a inventé une expérience de pensée dont pourtant beaucoup de gens croyaient qu'elle avait été inventée au XXe siècle. C'est l'expérience de pensée des terres jumelles. Alors, dans cette expérience de pensée, vous avez une autre terre qui est exactement comme la nôtre. Toutes les choses sont pareilles. Vous y êtes aussi. Tout le monde a son jumeau qui a exactement eu le même passé. Donc là, sur la figure, j'en ai marqué trois, mais évidemment, c'est uniquement à des fins de représentation. Alors, voilà ce que Leibniz propose ou objecte à Locke. Vous dites, cher Locke, que les souvenirs passés garantissent l'identité numérique de la personne qui se souvient. Mais supposons donc qu'il existe cette autre terre avec les mêmes habitants et chacun d'entre eux avec la même histoire et donc les mêmes souvenirs. Que dirons-nous des jumeaux ? Si nous prenons deux personnes deux à deux, que dirons-nous des jumeaux ? Qu'ils sont une seule et même personne ou qu'ils sont deux personnes ? Alors évidemment, si on était Dieu ou quelque être omniscient, on pourrait dire « Ah ben, c'est pas la même personne parce qu'ils ne sont pas dans le même espace ». Mais dans le critère de Locke, il n'est pas question d'espace, il n'est pas question de temps, il est simplement question de souvenir. Et donc la question de Locke, d'une certaine façon, elle est incomplète. Pour que les jumeaux soient distingués numériquement, il faut que les souvenirs les concernent en propre, et ça, cette singularité numérique n'a pas été établie par le critère de Locke. Alors, je vous donne un petit indice de la solution que nous allons tout à l'heure développer. Pour se sortir de cette difficulté, il faut que la mémoire participe à la transformation du sujet qui se souvient. Et donc, qu'il n'y ait pas un simple, on ne puisse pas simplement dupliquer les souvenirs, parce que les souvenirs devront contribuer à modifier le futur de l'individu que nous envisageons. Mais j'y viendrai tout à l'heure. Une deuxième objection que je n'ai pas encore développée, c'est que dans le schéma que j'ai proposé tout à l'heure, on se regardait vivre au passé un peu de façon détachée et contemplative. On regardait ça un petit peu comme le roman de sa vie. Alors certes, c'est passionnant, le roman de sa vie, mais enfin, nous savons bien que la notion de personne n'est pas purement spéculative, ce n'est pas simplement pour décrire ce qui s'est passé dans sa vie, c'est pour servir des besoins présents, pour motiver le futur. Et ça, c'est une dimension qui paraît très importante dans le concept d'identité personnelle. Troisièmement, et c'est lié à la précédente objection, l'importance du concept de personne tient à son caractère social plutôt qu'à l'aspect privé. Et il y a une dimension juridique de la personne qui d'ailleurs avait été reconnue par Locke lui-même. Le mot de personne, écrivait-il, est un terme de barreau, c'est-à-dire un terme de droit, qui approprie des actions, c'est-à-dire qui attribue des actions à leurs agents, et le mérite ou le démérite de ces actions, c'est-à-dire qui loue ou qui punit, et qui, par conséquent, n'appartient qu'à des agents intelligents, capables de loi et de bonheur ou misère. Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout le début de cette phrase, le terme de barreau, cet usage juridique de la notion de personne doit être reflété dans le concept que nous essayons de trouver si nous voulons rendre justice au fait que la personne n'est pas faite uniquement pour se contempler le nombril, mais pour comprendre quelque chose qui concerne les destins individuels. Donc je vais vous proposer une nouvelle hypothèse qui est l'hypothèse 5, que je vais appeler la théorie mémorielle révisée. Alors ici, vous avez le schéma ancien de la théorie mémorielle simple. Voici la théorie mémorielle révisée. Vous voyez qu'il y a des flèches nouvelles qui se sont ajoutées au schéma précédent. Dorénavant, nous ne regardons plus simplement les séquences rétrospectives, au cours desquelles, par exemple, un personnage se souvient de ce qu'il était. Là, nous sommes un peu plus loin dans la vie. Nous avons un personnage de 30 ans qui se regarde s'il était à 20 ans et à 25 ans, ce qu'il était à 18. Mais nous voyons que nous avons des flèches maintenant de couleur rouge qui vont dans l'autre sens. Alors, je vais évidemment expliquer ce que font ces flèches-là. Et puis, vous avez des flèches qui vont ici et qu'il faudra également expliquer. Alors, ce que je voudrais souligner dans ce schéma, c'est que ce n'est pas n'importe quel souvenir qui constitue l'identité personnelle du jeu étoile, c'est-à-dire du jeu fortement réflexif dont j'ai besoin pour répondre à Leibniz et à la question de l'identité numérique. Les flèches noires, c'était des souvenirs d'état antérieurs de la perception ou de l'action, et les flèches rouges, ce sont des révisions qui sont occasionnées par les souvenirs et les projets. En réalité, à quoi sert la mémoire ? La mémoire, ça ne sert pas seulement à ranimer du passé. D'ailleurs, les spécialistes de la mémoire nous disent que la mémoire ne fonctionne pas comme un coffre-fort où on irait chercher des vérités qui seraient là en attente d'être lues. La mémoire, c'est quelque chose de dynamique qu'on n'arrête pas de reconstruire en fonction du présent. Et donc, ce que je voulais traduire par ces flèches rouges, c'est que on se sert aujourd'hui du présent pour planifier son futur, pour organiser sa vie, et non pas simplement pour savoir ce qu'on a fait. Donc l'agent se souvient, mais en même temps, il apprécie les conséquences de ses actes pour mieux faire plus tard. Du moins, quand je dis mieux faire, évidemment, attendez, il ne s'agit pas de faire de la morale ici. Le point de vue de l'agent peut être le point de vue du criminel. Hein ? Nous n'avons pas à prendre position en ce point sur la nature morale ou immorale de la personne que nous envisageons. Nous sommes simplement en train de décrire de quelle capacité dépend la responsabilité humaine. Donc, ce que nous voyons, c'est que ce mieux faire plus tard dépend de la capacité aujourd'hui de me changer. Et là, nous avons le droit d'utiliser l'étoile parce qu'effectivement, il s'agit précisément de changer des choses qui sont déjà établies par les conduites passées. Et donc, ce que je propose, et ça va être l'essentiel de ce que je vais essayer de vous dire maintenant, la conscience de soi comme je identique, dépend de la capacité d'agir mentalement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action mentale ? Faisons une petite comparaison avec l'action physique. Dans une action physique, nous avons une intention, l'intention d'atteindre tel ou tel but. Par exemple, j'ai l'intention de prendre un verre d'eau. Le but est physique, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire passer ce verre d'eau vers ma bouche. Et le moyen d'action, il est également en partie physique, puisque je vais utiliser mon bras pour apporter ce verre d'eau vers ma bouche, mais mental aussi, parce que je ne peux pas faire ça si je n'ai pas les moyens mentaux de former l'attention et d'assurer l'exécution de l'action. Dans l'action mentale, j'ai également l'intention d'atteindre un certain but, mais mon but, cette fois, est mental. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je veux changer quelque chose de mes états cognitifs ou bien de ce qu'on appelle des états conatifs, c'est-à-dire des états de désir, par exemple. Donc le but mental, c'est de, par exemple, de vouloir changer ses émotions. On trouve qu'on est trop sensible, par exemple, au cinéma, on veut s'endurcir. Enfin, évidemment, c'est un exemple frivole, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus élevés. Je peux vouloir... je vais vous donner bientôt d'autres exemples. Bornons-nous simplement à résumer les moyens d'action cette fois. Les moyens d'action peuvent être ou bien des moyens d'action purement mentaux, comme lorsque je me persuade intérieurement de changer d'attitude, ou bien ils peuvent être mentaux plus physiques, comme lorsque je prends un crayon pour m'aider à raisonner ou à me fixer des plans. Alors, venons à ces différents exemples qui sont évidemment capitaux et j'aimerais avoir le temps d'élaborer un petit peu, mais je ne l'aurai pas. Voyons quelques exemples, d'abord épistémiques, des exemples qui concernent les croyances et les connaissances. Bien sûr, le plus fréquent, c'est de chercher à savoir. On cherche à modifier son état de savoir. On sait qu'on ne sait pas, on sait qu'on ignore des choses, on veut acquérir du savoir. Ou bien on peut aussi rejeter le savoir. On peut considérer que le savoir est source de troubles, source de quelque chose qui va gêner certains autres aspects de notre vie, et donc refuser de savoir, rejeter un enseignement, rechercher les occasions où on pourrait être instruit de ce qu'on ne veut pas savoir. Les désirs. On peut également désirer. C'est très étonnant comme phrase, mais quand vous y réfléchissez, ça a du sens. Désirer, c'est quelque chose de très spontané. Tout le monde désire. C'est quelque chose qui est donné à la plupart des animaux. C'est être tenté par quelque chose qui vous entoure et faire le geste pour l'obtenir. La difficulté n'est pas de désirer. La difficulté, c'est d'inhiber ses désirs lorsqu'ils ne sont pas satisfaisables immédiatement ou lorsqu'ils viennent en contradiction avec d'autres désirs que vous avez. Donc pour cela, il faut apprendre à inhiber ses désirs, c'est-à-dire à désirer. Il faut choisir entre ces désirs. Et il faut choisir de choisir. Pour les émotions, également, nous pouvons déterminer, du fait que nous sommes humains, en fait, il y a très peu d'autres animaux qui sont capables de cela, je crois qu'il n'y en a pas, d'ailleurs, en fait, nous sommes capables de aussi choisir d'avoir des émotions ou de ne pas les avoir. Nous sommes capables de moduler dans une certaine mesure nos émotions, soit en choisissant d'aller dans le sens de l'émotion, en faisant une culture de l'émotion, ou au contraire en ayant une culture anti-émotion, comme ça peut être nécessaire dans certains cas gravissimes que je vous laisse imaginer. Et puis, bien entendu, exercer sa volonté fait partie des actes mentaux. S'entraîner à faire des choses, même si on n'y tient pas spécialement, même si ce n'est pas un désir présent, mais c'est quelque chose qu'on a décidé qu'on ferait pour des tas de raisons, on le fait, c'est quelque chose qu'on nous apprend à faire très jeune, ça fait partie, c'est une dimension essentielle, évidemment, de l'éducation. Donc je dirais que changer ses états mentaux, tout ce que je viens de vous expliquer, ça peut se décrire par une expression compliquée, mais qui, je pense, devrait maintenant être claire, c'est s'auto-affecter, c'est-à-dire se modifier soi-même, changer ses états initiaux, en quelque sorte, changer ses états de connaissance, c'est banal, changer ses états de désir, ça l'est moins, changer sa volonté, c'est des choses tout de même que nous sommes amenés à faire, tout cela, c'est de l'auto-affection. Donc, être une personne dépend de la capacité de s'auto-affecter et dépend de la conscience de cette capacité. Il faut ces deux choses pour être une personne. Il faut avoir la capacité de s'auto-affecter, il faut avoir la conscience de cette capacité. Alors, on peut m'objecter ici que cette théorie reste d'inspiration cartésienne et privée. Et d'autre part, on peut m'objecter qu'elle manque la dimension sociale de la persona. Qu'est-ce que c'est que la persona ? C'est le masque. Au sens étymologique, persona veut dire masque. Et on en a conclu un peu vite qu'être une personne, c'est se masquer, se dissimuler. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. J'aurais pas le temps d'entrer dans les détails, mais la persona, c'est un masque, effectivement, qu'on portait autrefois pour signaler son appartenance familiale. C'était une identification et non pas une façon de se cacher derrière. C'est nous, occidentaux du XXIe siècle, qui sommes tellement individualistes que nous estimons que la persona est faite pour cacher. Mais la personnalité était initialement faite, au contraire, pour signaler et pour montrer quelque chose. Alors, évidemment, dans le peu de temps qui me reste, je voudrais répondre à l'objection. Le social, me semble-t-il, joue un rôle capital dans la théorie que je propose, au moins pour deux raisons. D'abord, par le jeu des représentations collectives de ce qu'il faut faire de soi. Dans ces retours des flèches rouges, ces retours étaient contrôlés par des valeurs, par des engagements, par des représentations de valeurs et d'engagements. Et ces représentations sont transmises socialement. Deuxièmement, l'éducation de la flexibilité des dispositions mentales est une chose qui est sociale. Et sans elle, nous serions totalement incapables de développer les capacités en question. Alors maintenant, on dit souvent, oui, mais c'est une personne. La personne est quelque chose de fondamentalement lié au jugement d'autrui. On sait que Sartre a beaucoup développé ce thème. Autrui, certes, juge que vous êtes une personne sur la base de votre aptitude apparente à l'action mentale, par exemple la stabilité des valeurs, l'attention, la persévérance. Mais cela ne veut pas dire que, et également l'interaction, comme je le disais, permet de développer l'aptitude à agir mentalement, mais le fait qu'autrui se fie à votre attention apparente, même si ça peut vous induire à tenter de le tromper en adoptant des attitudes conventionnelles de l'agent réflexif, eh bien, ça ne doit pas vous conduire à penser que ce que vous êtes dépend uniquement de ce que pense autrui. À mon avis, il y a là un raisonnement erroné. Être la personne que l'on est constitué par l'exercice de capacités qui sont liées à l'action mentale, qui ont progressivement redessiné notre esprit. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps. Ah bon, alors, donc, j'ai un peu plus de temps que je le pensais. Donc je peux peut-être développer un peu mieux ce que j'ai dit très vite, parce qu'il me semblait que mon temps allait s'épuiser d'une minute à l'autre. Quand je disais qu'on peut tenter de tromper autrui sur qui l'on est en adoptant les attitudes conventionnelles de l'agent réflexif, là je pense à quelqu'un qui a fait un travail remarquable sur ce sujet, c'est Irving Goffman, qui a écrit des ouvrages sur la mise en scène de la vie quotidienne, où il décrit la manière dont chacun d'entre nous s'emploie constamment à présenter une image de ce qu'il est, une image conventionnelle, qui est destinée, en fin de compte, à laisser penser à autrui qu'il est quelqu'un de remarquable et de sans défaut. Alors, est-ce à dire, c'est en me fondant sur ce genre d'analyse que je vois bien que les sociologues ont tendance à dire que la notion de personne, ça n'est au fond que cela. C'est une notion qui sert à tromper autrui, pour des raisons qui sont tout à fait évidemment liées à l'intérêt personnel. Il s'agit de monter dans l'échelle sociale, et pour monter dans l'échelle sociale, il faut toujours apparaître un peu mieux qu'on est en réalité. Et donc, dans tous les cas où on doit faire preuve de maîtrise, de sang-froid, etc., on va tenter de se faire passer pour un petit peu meilleur qu'on est. Donc, il y a là quelque chose qui est, selon beaucoup de sociologues, en particulier ce remarquable sociologue Irving Goffman, on voit bien que cette mise en scène est pour lui essentiellement fallacieuse. Alors, ce que je voulais essayer de faire passer, c'est que, certes, il y a cette tentation sociale de la tromperie qui fait partie du jeu, surtout dans des sociétés comme les nôtres, qui n'ont pas été, enfin, toutes les sociétés ne sont pas comme les nôtres, avec une ascension sociale qui est finalement la valeur ultime pour tout le monde. Mais dans les sociétés comme les nôtres, certes, nous sommes engagés, comme cela, à essayer de donner le change. Mais cela ne veut pas dire que c'est de la fausse monnaie. C'est ça que j'essaye de soutenir. Être ce que l'on est ne dépend pas uniquement de notre capacité à nous faire passer pour quelqu'un auprès d'autrui. Je pense qu'il y a un soubassement réel et solide à cette capacité. Être la personne que l'on est, encore une fois, c'est une capacité d'agir mentalement sur soi. Et ça, on en est plus ou moins capable. Et il faut ajouter, probablement, que certains en sont totalement incapables. Ça, je vais y venir en conclusion. C'est donc une capacité de redessiner son esprit, de réallouer des ressources, si vous voulez, en termes informatiques, c'est-à-dire progressivement d'améliorer ses capacités mémorielles pour mieux apprendre, d'améliorer ses capacités émotionnelles pour réagir mieux à son environnement, etc. Ou peut-être, pour d'autres encore, rechercher des conditions où mieux jouir de la vie, obtenir davantage de plaisir. C'est également une éducation qu'on s'impose. Donc, dans tous ces cas, il y a des buts qu'on se donne et qu'on poursuit d'une façon plus ou moins cohérente. Donc, cette cohérence même se suggère qu'il y aurait comme une dimension intensive de la personne, c'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins quelqu'un. Mais ça, c'est une dimension spéculative sur laquelle je n'insisterai pas pour le moment. Alors, si je fais maintenant un très rapide survol des cas pathologiques que j'avais évoqués au début, la personne, on a vu que c'était soit sur la base de traumatismes infantiles, d'émotions incompatibles. Le résultat, c'est que le patient a une fragmentation de sa mémoire. Il a une action fragmentée donc de son action mentale, puisque l'action mentale dépend de façon centrale de ses souvenirs, et il en résulte qu'il n'y a pas de personne intégrée, mais au contraire, autant de personnes qu'il y a de dimensions de l'agir mental. On aura donc des personnes qui aimeront le plaisir, d'autres qui aimeront le travail, d'autres qui auront des goûts, d'ailleurs c'est bien le cas dans cette clinique, les différents haltères ont des goûts extrêmement différents. Et d'ailleurs, ils ne cessent de se quereller entre eux. Alors, dans ce qui concerne la psychose hallucinatoire, on peut dire que dans ce cas, il y a inaptitude à traiter les contextes nouveaux, il y a désorganisation de l'attention et de l'action, et donc il y a incapacité cruciale de contrôler ces états mentaux. Et je pense que c'est principalement ce problème qui est à la source des difficultés du patient à s'identifier comme personne, beaucoup plus que de simples questions motrices de savoir si c'est moi qui ai bougé le bras. Dans le syndrome de Cotard, nous avons une disparition ou un affaiblissement des indices affectifs dans la perception et dans l'action, d'où absence de motivation pour agir sur le cours présent de son esprit et à nouveau, perte du sens d'être une personne vivante. Donc, résumons-nous. Être la personne que l'on est constitué par la capacité d'agir mentalement et cette capacité détermine un recouvrement d'état mémoriel qui est à la fois rétrospectif et prospectif, c'est-à-dire qui regarde vers l'avenir. Alors, je voudrais conclure sur des questions pratiques qui peut-être vous préoccupent davantage que ces questions théoriques que nous avons évoquées, mais qui, évidemment, ne peuvent pas être résolues sans ce travail conceptuel. La première question, c'est les primates non humains. Par exemple, Sarah, qui est ce chimpanzé extraordinaire qu'a élevé David Primack et auquel il a donné des leçons de langage quotidienne pendant des années. Est-ce que les primates non humains, ces chimpanzés, par exemple, sont des personnes? Alors, dans la théorie 1 ou dans la théorie 2, celle qui évoquait le corps ou le cerveau, c'est non, tout de suite. Mais on a vu que c'est l'argument du spécisme est irrecevable. Dans la théorie 3, savoir est-ce qu'ils ont une expérience? Oui, ils ont une expérience. Ils ont une expérience du corps, ils ont une expérience comme nous, du monde, et donc... Oui, dans ce cas-là, ce sont des personnes, mais nous avons vu que cette théorie ne nous satisfaisait pas. Dans la théorie 4, nous n'avons aucune raison de dire oui ou non, parce que nous ne savons rien sur les souvenirs épisodiques des chimpanzés. Mais dans la théorie 5, nous le savons. Non, ils ne sont pas des personnes parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs propres états mentaux, et ça, nous le savons, parce qu'ils ne peuvent faire que quelque chose qu'ils ont été entraînés à faire, en fonction de leur environnement et non pas quelque chose qu'ils ont projeté individuellement de faire. Alors, maintenant, les psychotiques délirants, sont-ils des personnes? Et là, je pense qu'il faut forcément une réponse double. Si on les prend globalement, ces sujets, à titre de disposition, il faut évidemment les considérer comme des personnes, à titre conservatoire, mais localement et pendant leur épisode, ils ne se ressentent plus ni n'agissent plus d'une manière personnelle, et donc je pense qu'il ne faut pas, évidemment, les considérer comme des êtres responsables. Ils ne doivent pas faire l'objet de poursuites judiciaires, et comme vous le savez, c'est un problème d'actualité en ce moment. Et enfin, des robots intelligents peuvent-ils être des personnes? Eh bien, selon l'hypothèse que j'ai soutenue, oui, s'ils sont capables d'agir mentalement pour modifier leurs propres états internes, sur la base de leur interaction passée avec d'autres agents et avec le monde, s'ils sont capables de se donner des objectifs de ce genre, certes, ils doivent être considérés comme responsables et ainsi comme des personnes. Maintenant, reste la question de savoir quel est le rôle qu'a joué dans tout cela leur concepteur. C'est à nouveau une question que je laisse aux juristes. Je vous remercie de votre attention.
Vous avez parlé un peu de la phylogénèse en parlant des singes, mais qu'en est-il de l'ontogénèse, c'est-à-dire au cours du développement? Il est clair, ou à peu près clair, qu'un œuf, dont tous nous sommes issus, n'est pas une personne. À partir de quand et sur quels critères apparaîtrait une personne? On a l'impression, d'autre part, que ce que vous avez donné comme meilleur critère, finalement, c'est l'existence de buts. Mais encore faut-il savoir au nom de quoi ces buts sont, comment dirais-je, apparaissent.
La première question, l'ontogénèse, l'œuf. Je crois que là, nous avons un problème qui est un petit peu semblable à celui tout à l'heure du cas de l'interrogation portant sur le psychotique. Est-ce que le psychotique est une personne, même s'il ne l'est pas maintenant, à titre conservatoire, nous disons qu'il en est une. Je crois que nous avons des problèmes de tension entre des critères conceptuels et des critères juridiques. Si nous prenons les critères mémoriels desquels nous tirons l'idée de responsabilité, nous arrivons au fait que lorsque le sujet n'a pas de mémoire, c'est-à-dire avant l'âge de 2 ans, il est évidemment exclu qu'on puisse parler de personne. Mais lorsque le sujet n'a pas de capacité exécutive, on parle de l'âge de raison à 7 ans, mais en réalité, les capacités exécutives sont là seulement vers 18 ans, pleinement élaborées. Donc, vous voyez, nous avons un problème. Nous avons un problème d'application du concept. Et je crois que c'est normal. Ce n'est pas parce qu'un concept est difficilement applicable qu'il n'est pas bon. Ça veut dire que la nature est complexe et que nous devons tenir compte du contexte dans lequel nous utilisons le concept pour savoir qu'en faire. Alors, c'est vrai que pour des raisons métaphysiques, le respect de l'individu humain, on a appelé personne l'œuf fécondé, par exemple. Maintenant, ce sont des débats qui ressortent de l'éthique et de la métaphysique beaucoup plus que de la philosophie de l'esprit. Je crois que là, il y a des enjeux qui sont très différents. Toute cette réflexion, je n'ai pas pu donner de nom propre d'autres philosophes parce que le temps était très compté, mais ça s'appuie entre autres sur le travail d'un philosophe américain qui s'appelle Harry Frankfurt. Et Harry Frankfurt a cette idée de comparer un agent irréflexif et un agent réflexif. Et je crois que c'est très instructif. L'agent irréflexif a des buts, mais il ne peut pas délibérer sur les désirs qu'il veut choisir. Et donc, à chaque fois qu'il a un but, il fonce, il y va. L'agent réflexif, au contraire, est capable de discerner parmi ses buts ceux qu'il préfère vraiment développer. Alors, ce n'est pas du tout moral, cette considération. Prenons le cas que donne Harry Frankfurt, c'est celui d'un drogué. Nous avons un drogué réflexif et un autre irréflexif. Le drogué irréflexif va prendre de la drogue sans discuter avec lui-même parce que ça lui plaît. Le drogué réflexif va aussi prendre de la drogue, mais il va prendre de la drogue après avoir choisi que c'est finalement ce qu'il voulait faire. Il a choisi la drogue, c'est sa voie, c'est son destin, et il choisit délibérément d'aller dans ce sens. Vous voyez la différence? C'est que dans le deuxième cas, même s'ils font exactement la même chose, et c'est une idée d'ailleurs ancienne puisqu'on la trouve chez les stoïciens, ce n'est pas dans le comportement qu'on peut décerner si c'est quelqu'un est une personne ou non, ou un sage, c'est dans la manière dont il se justifie ce comportement. Et il y a des individus qui ne peuvent pas s'empêcher de faire ce qui les tente à un moment donné. Ce sont des individus irréflexifs qui donc n'ont pas accès, de facto, au statut de personne.
J'étais très intéressée par votre exposé, mais il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu. Tout à l'heure, vous avez parlé des singes, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je voulais rappeler une chose à propos de différents groupes. Autrefois, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, on a considéré que les Américains d'origine n'étaient pas forcément des humains. Vous rappelez la controverse de Valladolid. On a aussi parlé des femmes, et on a affirmé qu'elles n'avaient pas d'âme. Les enfants, il n'y a pas très longtemps qu'on dit qu'ils peuvent souffrir. On commence à voir qu'on a eu beaucoup d'idées fausses sur certains sujets. Alors tout à l'heure, quand vous avez dit que les singes ne peuvent pas contrôler leurs états mentaux, sur quoi vous basez-vous et êtes vraiment sûr que c'est vrai? En tout cas, l'enjeu me semble extrêmement important Et il est évidemment beaucoup plus commode de penser qu'ils n'en ont pas. Voilà.
Je vous remercie de votre intervention. Je suis moi-même sensible, comme vous, à éviter les injustices que vous évoquez. C'est vrai que c'est très important et c'est notre responsabilité. C'est donc en me fondant sur des travaux scientifiques que j'ai fait cette affirmation. Les travaux de Rizzolatti, par exemple, qui travaille sur des, lui, non pas sur des chimpanzés, mais sur des macaques, a une expression très forte là-dessus. Il dit « les macaques sont des apraxiques ». C'est-à-dire, ils sont précisément dans le cas où ils ne peuvent pas faire quelque chose qui n'est pas spontané, qui ne correspond pas à ce qu'on appelle un stimulus, qui, en fait, ce sont des animaux qui sont contrôlés par leur environnement. Quand ils voient quelque chose de bien faire, ils le font. Ils n'ont pas d'autre idée que cela. Alors, l'idée selon laquelle le contrôle mental n'est pas accessible aux autres espèces de primates semble liée au fait que ces espèces n'ont pas le langage. Le langage paraît être une donnée exécutive capitale pour maintenir en mémoire un projet. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des projets, il faut encore qu'ils soient durables, ces projets, il faut qu'ils contrôlent le comportement. Or, pour cela, il semble qu'il soit nécessaire de se fixer des objectifs langagiers qu'on communique à autrui, et aussi qu'on ait le secours d'autrui pour nous aider à contrôler tout cela dans une éducation. Il n'y a pas d'éducation de l'exécutif chez les primates non humains. Je crois que ça, c'est une donnée évidente que vous pourront vous préciser les éthologistes, mais il n'y a pas d'enseignement chez les primates. Il n'y a pas d'enseignement. Pardon ? Écoutez, là-dessus, il y a des débats réellement. Ce n'est pas aussi clair ce que vous dites. Je suis une grande fanatique des chimpanzés. Si je pouvais dire ce que... je le ferais.
Oui, merci pour votre exposé que j'ai trouvé très clair pour ma part.
Où est-ce que c'est ?
Vous avez évoqué un moment la possibilité de se connaître par l'expérience. Et vous avez parlé de l'introspection en disant... disant que finalement l'introspection n'était peut-être pas... Enfin, il y avait un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité dans l'expérience intérieure qui n'est pas de l'ordre de l'introspection, justement, qui pourrait être dans des moments que l'on connaît tous, je pense, où l'esprit en nous est plus apaisé, est plus calme, on pourrait dire, et on a l'impression d'être plus soi-même par rapport à divers personnages qu'on peut jouer dans la société. Et vous avez rapproché dans votre exposé très fortement les concepts d'identité et de personne. Mais est-ce que l'identité, est-ce que justement dans ces expériences, on va dire, peut-être quotidiennes, peut-être pour certains êtres, mais est-ce que dans ce type de moment, on n'a pas le sentiment justement que on a un degré d'être plus important, et cette connaissance de soi n'est pas une connaissance de sa personne, elle dépasse à la fois la personne que l'on est socialement et la personne que l'on se conçoit.
Je vous remercie de votre témoignage. Oui, je pense qu'il y a des dimensions dans l'identité personnelle qui sont de l'ordre des propriétés qu'on trouve en soi. Mais je crois qu'il faut bien distinguer les questions. Ce qui m'intéressait là, ce n'était pas les propriétés de soi, c'est qu'est-ce que c'est qu'être soi. Donc, quand vous rapportez cette expérience tout à fait rare, où on s'apaise, où on trouve en soi quelque chose qu'on n'y avait pas vu ou alors qui était caché dans d'autres circonstances, vous pensez à la première question, à la question des propriétés qu'on a, et pas à la question de qui ai-je. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt quoi ai-je ? De quoi c'est fait, ça ? Mais ce qui m'intéressait, c'est jusqu'où ça va ? Pourquoi est-ce que ça s'arrête aux frontières du corps ? Et quand ça dure ? Jusqu'à quand et depuis quand ? Vous voyez, c'est plutôt ce genre de question. Maintenant, le fait que peut-être y a-t-il en effet des moyens de recouper les deux interrogations, à savoir l'interrogation sur la référence du mot « je », et la question sur quelles sont les propriétés caractéristiques de cet être-là. Peut-être, mais ceci dit, n'oublions pas que dans tous les cas, il s'agit non pas d'identité statique, mais de quelque chose qui est nécessairement changeant. Comme on dit en philosophie, l'ipséité et pas l'identité. L'ipséité, c'est quelque chose qui change sans cesser d'être le même, comme par exemple un ouragan. Vous avez vu l'ouragan récent, là, Michel, je crois, se promener, mais ça reste le même ouragan. Il change de force, il change de lieu, mais ce qui permet de le singulariser comme le même ouragan, c'est qu'il a une trajectoire continue dans l'espace et dans le temps. Donc nous disons que c'est le même individu. Et de même, pour une personne, nous disons que c'est la même, non pas parce qu'elle ressemble à ce qu'elle était avant, mais parce qu'elle a certaines propriétés qui perdurent. Et là, en l'occurrence, c'est des propriétés de type mémoire exécutive, disons.
Le sujet que vous abordez est passionnant et essentiel, à mon sens, et je pense au sens de beaucoup de personnes. Vous avez indiqué que la mémoire est un élément constitutif primordial de la personnalité de la personne. Et vous avez parlé de la mémoire en situant la naissance de cette mémoire aux alentours d'une dizaine d'années et jusqu'à la fin de notre existence. Ne croyez-vous pas qu'il existerait une mémoire innée, une mémoire chromosomique que l'on pourrait, que certaines personnes ont évoqué, certains écrivains, certaines personnes qui ont évoqué des choses qu'ils n'avaient pas pu vivre dans leur vie d'être, et que certains de leurs ancêtres leur avaient transmis un certain nombre de connaissances, une mémoire collective en quelque sorte. Que pensez-vous de cette notion ?
C'est une question intéressante parce qu'en plus elle nous permet de voir le potentiel du concept que je vous ai proposé. Personnellement, je ne crois pas cela, mais on peut le croire. Je veux dire, c'est ouvert. Et on peut imaginer un monde dans lequel il en irait ainsi. Et dans ce cas, la question qui se pose, c'est de savoir, mais où s'arrête la personne ? Est-ce qu'elle s'arrête à l'être vivant en question ? Ou est-ce qu'elle se poursuit sur toute la lignée des individus qui se sont succédés et qui partagent une séquence de leurs souvenirs ? Supposons, comme on le trouve dans la littérature par exemple, que nous avons un individu X qui vit au XVIIIe siècle et qui transmet en quelque sorte ses expériences à un individu Y qui vit au siècle suivant, etc., etc. Est-ce qu'il faut compter une personne ou est-ce qu'il faut compter autant de personnes qu'il y a eu d'êtres vivants ? Je crois que l'un des intérêts de cette discussion, c'est de poser ce problème. Oui. Vous ne parliez pas en termes de...
Je parle de la transmission chromosomique, je ne parle pas d'individus trop éloignés, si vous voulez, de nos parents et grands-parents.
Alors, habituellement, on considère que la mémoire dite épisodique, c'est-à-dire la mémoire qui renvoie aux souvenirs vécus, est une capacité qui commence donc aux alentours de 2 ans à se former. Et par conséquent, l'idée qu'il y ait d'autres types de mémoire, peut-être, mais que ces autres types de mémoire et ce format représentationnel-là, ça, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir, évidemment, toutes sortes de faux souvenirs. Hein. La notion du souvenir est quelque chose qui est un sujet d'illusion tout autant que la perception visuelle, même certainement plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir vécu des choses qu'on nous a racontées, par exemple. On a l'impression de les voir du dedans. Et on forme des souvenirs qu'on appelle, en philosophie, des quasi-souvenirs. Alors, ces similitudes n'ont pas nécessairement à relever du souvenir épisodique. Hein. Évidemment, comme vous le dites, il y a des dispositions innées qui sont préservées, mais elles ne relèvent pas de cette dimension représentationnelle, il me semble.
En parlant du jeu, peut-on dire « je suis fou » ? Peut-on être conscient d'une psychose ? Oui ou non ? Ou éventuellement d'une névrose ?
Henri peut-il répondre ? Est-ce que vous permettez au docteur Grivois de répondre à cette question ?
Mais pourquoi pas ?
On peut avoir un micro ? On va vous répondre, monsieur, nous avons ici un excellent spécialiste de la question.
Oui, alors, si j'ai bien compris votre question, est-ce qu'on peut être conscient d'être fou? Bien sûr qu'on peut être conscient d'être fou. Les patients qui sont fous sont les premiers à le savoir. Ils savent très bien. D'ailleurs, ils sont en même temps fous et pas fous. C'est ça qui était... Enfin, vraiment, là, je simplifie énormément. Mais c'est ce que disait Joël Proust tout à l'heure, en citant un exemple que je lui avais donné. Je suis vous et vous, à la fois... On peut être à la fois fou et pas fou, si vous voulez. Esquirol l'avait déjà dit, donc c'est quelque chose qui date de plus de 200 ans. Mais je voulais relever quelque chose, j'avais demandé la parole, pour donner une précision. Effectivement, je vous ai dit que le cotard n'existait plus, pour une raison très simple, c'est qu'on les soigne. C'est un des succès les plus extraordinaires de la psychiatrie moderne, ça se soigne en 15 jours. Et alors qu'autrefois, les asiles étaient pleins de cotards, de gens qui se disaient morts, etc. Enfin, vous savez... très bien décrit. Mais cela dit, entre le schizophrène qui dit « je suis vous et vous » et qui dit en même temps « je suis donc quelqu'un et quelqu'un d'autre », entre le cotard qui dit « je suis mort » mais qui ne dit pas « je suis en même temps vivant », il dit « seulement je suis mort », et le troisième exemple trouble dissociatif de la personnalité multiple, on a une temporalité tout à fait différente. Il y a donc le premier, c'est à la fois quelqu'un et quelqu'un d'autre. Le cotard, bon, c'est le cotard. Et l'autre, il ne dit jamais « je suis quelqu'un » et puis dans quelques jours, je vais devenir quelqu'un d'autre. Il n'a absolument, c'est un trouble de la mémoire. Il n'a jamais en même temps conscience d'être deux personnes. Ça, je crois que c'est très important. Sinon, il serait psychotique.
Merci de cette précision très intéressante.
Vous avez parlé de la dimension intensive de la personne. Est-ce qu'en dehors de toute pathologie, individuel ou sociétal, par exemple, dans une... Est-ce qu'il y a une influence de la société sur ce sentiment, sur cette capacité plus exactement? Par exemple, dans les sociétés tribales, où le sens collectif est très développé, est-ce que la personne, le jeu, est aussi fort?
Alors, je crois qu'il faut que nous soyons très prudents ici dans l'examen de la question, parce que nous avons tendance à mettre en équation personne et individualisme. Hein. Une personne n'est pas nécessairement quelqu'un qui se ressent comme un individu chargé de propriétés personnelles. C'est ça qu'il y a de paradoxal. Dans la définition que j'en propose, être une personne, c'est avant tout la capacité d'agir sur soi et non pas la capacité de se représenter comme un individu exceptionnel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais il y a toutes sortes de sociétés où les gens se considèrent eux-mêmes comme étant des parties d'une famille et non pas comme étant des individus qui ont leur pleine autonomie au sens où nous l'avons. Et je pense que ce sont là deux questions très différentes. Il y a la question des représentations sociales de la personne et la question de ce que c'est qu'en fait une personne. Je pense qu'il ne faut pas confondre les deux approches, même si nous sommes tentés de le faire à travers, par exemple, la sociologie, comme je le disais tout à l'heure. Mais la sociologie me semble dépendre du concept de personne et non pas l'inverse. Le concept ne dépend pas de la représentation dépend du concept. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Joël Proust, merci beaucoup.
Merci à tout le monde.